gratuit, d'où ce recours au notaire, même entre des gens du même village, et puis cette espèce de chaîne, hein, eux-mêmes se refinancent. Ça aussi, c'est une chose qu'on voit bien, c'est le refinancement donc, du crédit local par des financiers de la ville qui, eux-mêmes, à une certaine époque, demandent de l'argent à des financiers extérieurs. Hein, donc, des gens qui ont plus d'argent, par exemple, les taux pour arriver sur le marché du crédit. Non, ce qui est les types de crédit, les gens à qui on prête verbalement, c'est deux choses différentes aussi, hein, verbalement et gratis. Verbalement, ça ne veut pas toujours dire gratis, hein, ça veut dire simplement que quelquefois on simplifie l'acte. En revanche, un crédit gratuit, je crois qu'il est toujours, verbal, c'est une forme d'assistance, hein, on dérive vers l'entraide. Hein. Et donc là, il me semble que les prêts gratuits, on les voit entre gens du même milieu. Je ne sais pas si on va dans celui-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans parmi ceux que vous appelez les bourgeois, là, donc ces riches citadins qui sont tous, en fait, il n'y a jamais de crédit vraiment professionnel, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de... c'est des gens de la ville qui sont des usuriers, en fait, qui font surtout ça, mais enfin, qui font aussi d'autres choses, hein, qui ont des terres, qui sont entrepreneurs, etc. Et donc, ils peuvent aussi prêter gratuitement, mais c'est à des gens du même milieu, c'est-à-dire qu'ils ne prêteront jamais gratuitement à un paysan. Hein. De la même façon, les paysans entre eux peuvent se prêter gratuitement, les voisins, les parents. Hein. Donc ici, le forgeron de Crémone du document 7, il a fait deux prêts gratis sine carta, c'est à des voisins, c'est des petites sommes, hein, 15 sous, 9 sous, hein, alors qu'à un autre voisin, il a fait un prêt avec contrat notarié, et c'est une grosse somme, 14 000, et il appelle ça deposito, c'est-à-dire que c'est un prêt qui va apporter de l'argent, c'est sûrement une espèce de banque, on est dans un milieu très proche de banque. C'est les gens qui animent, c'est le haut de, vous avez très bien décrit cette, vous avez dit ce continuum, mais c'est exactement comme ça que je vois ce crédit, c'est-à-dire on part d'un crédit entre paysans, hein, comme la calcinate, et puis on arrive en haut, c'est qui? C'est les gens qui sont au foire de Champagne, les banquiers qui prêtent de l'argent au roi d'Angleterre, au roi de France, et qui sont à Bruges, hein, et donc c'est vraiment la finance européenne qui a ses racines, bon, en Toscane surtout, mais aussi là, Plaisance, un petit peu à Crémone, hein, l'argent que l'enfant de Mozzo dépose sous Pierre Taboula ou en ce qui est à Simon de Rudello de Plaisance, c'est l'argent qui finit au foire de Champagne. Ça fait aucun doute. Hein, c'est un placentin en 297 à qui on place 150 livres, c'est pour la finance internationale. Donc, vous voyez comment, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que j'essaye de montrer dans le dossier, c'est une des choses, c'est justement cette diversité des possibilités de placement et cette flexibilité de gens qui va avec une flexibilité de l'information. C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais je crois que c'est très important. Là, il y a des gens qui savent, hein, où on se procure. Où on se procure de l'argent, comment une information qui porte plus sur la possibilité d'avoir de l'argent que des taux, sans doute, parce qu'il y a du taux de prêt, c'est comme, toi, je pense que le taux est à peu près stable, c'est souvent fixé par les statuts.
Bon,
ouais.
Vous avez dit qu'il y avait des gens qui achetaient des terres. Et alors à qui
acheter des
biens sans forcément reconnaître le parti politique,
oui,
de la créance.
C'est le cas d'acheter une créance. Alors voilà, là c'est un point important, c'est que si j'ai médité là-dessus, donc à partir évidemment de Postelvillé, hein. Donc cette question, est-ce que les notaires jouent, quel rôle jouent les notaires? On a l'impression qu'en Italie, les notaires ne jouent pas un rôle tellement plus, ne vont pas tellement au-delà du fait qu'ils rédigent les actes, et souvent c'est des, Et c'est vraiment un prolétariat, un super prolétariat quand même, mais c'est des besogneux. Hein, donc il y a un nombre de notaires incroyable dans ces villes. Hein, Bergame, il y en a 300, je pense, pour une ville de 30 000 habitants. Donc, on ne serait pas tous à temps plein. Il y en a quelques-uns qui sont aisés. On en voit un ou deux qui prêtent de l'argent, mais ce n'est pas le cas général. Hein. Et donc, non, ils achètent à d'autres particuliers, mais je ne sais pas. Hein, c'est une mention quand même assez rare, hein, cette acquisition des droits sur quelqu'un d'une autre ville, dans la documentation, la représentation sur cette ville. Mais là aussi, c'est vraiment un marché. Comme je dis, c'est à 40 km de créances qui circulent. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'en général, on vend les créances au prix où elles ont été, le prix du. Le montant du prêt, il n'y a pas d'escompte, c'est une chose qui m'a appris.
Voilà, il faut y avoir un escompte, effectivement la valeur faciale est respectée, sauf qu'en réalité la somme versée la valeur. L'escompte ne se voit donc que si on a la chance, c'est plus fréquent en 1850, j'imagine, d'avoir les deux, donc d'avoir le versement aussi.
C'est la solution.
J'avais une petite question en plus pour François Le Rouxel, quoi que ça puisse se poser dans les deux cas, sur la réalité des sanctions, en fait, enfin, la différence entre contrat public, etc. C'est que quelque part, il y a une menace crédible de quelque chose comme un procès ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a des informations sur ce que ça pouvait représenter concrètement, en termes de possibilités, voire en termes de réalité?
Si c'est pas un contrat public.
Finalement, dans les deux cas, d'ailleurs, qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe mal pour un contrat public et qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe mal pour un contrat pas public, si tant est qu'on le sache?
Si le pouvoir porter l'affaire en justice quand il y a des questions de terre, que ce soit le nombre de terre ou le prêt garanti sur un tel, il faut que ce soit un contrat privé. Mmh. Si c'est un contrat privé, c'est pas possible. Mmh. Donc il y a quand même intérêt à faire une question de terre. Et enfin, on voit aussi que tous les. Ça, on le vérifie. Non seulement ils ont intérêt, on le voit. Tous les contrats qui partent de terre, ce sont des contrats publics, c'est jamais des contrats. Mmh. Les contrats privés, c'est en général des sommes moins importantes et il n'y a pas de terre en jeu.
Et on sait s'il y avait réellement un recours à la justice, enfin, par exemple, si ça coûtait très cher, si c'était un truc quotidien pour n'importe qui.
Non, c'est cher, parce qu'il faut que. Il faut que les pétitions remontent jusqu'à Alexandrie. À Alexandrie, on consulte le fichier central qu'on renvoie la dîme. Donc c'est long, ça coûte de l'argent. Donc, les gens ont vraiment intérêt à prendre l'assurance avant plutôt que de compter. Ça va coûter cher. Et les conflits qui durent sur 50 ans. Donc, ça concerne en général les gros prêts.
Dans le même ordre d'idée, dans la première période, on parlait d'un taux qui est toujours à 12%. Alors, qui a fixé ce taux? Comment ça se passe? Enfin, je trouve ça assez, pour le moment, c'est incroyable. Ils sont tous à 12%. D'où ça vient? Et puis après, ils ont cette institution qui arrive, qui modifie, vous décrivez très bien, en profondeur, les types de relations sociales, hein, du crédit, avec quand même l'autre logique qui préexiste. Mais alors, pourquoi cette création? C'est-à-dire que, d'où elle sort aussi, cette biothèque des acquets? Est-ce que ça répond à un besoin? Si ça marchait bien avant, pourquoi il y a cette institution?
Ça marchait bien avant,
mais ça marche mieux après. Oui, non, mais ça, c'est la téléologie. C'est-à-dire que, d'accord, mais justement, il y a un moment où on dit.
C'est pas fait pour ça.
Pourquoi il y a. Voilà, c'est assez. Parce que c'est une vision, alors, néo-institutionnaliste, assez progressiste. Hein. Il y a un côté, avant, c'était dans l'informel, puis après. En même temps, on se rend compte, finalement, dans le détail, que c'est assez formalisé. Ce taux unique qui est incroyable. C'est-à-dire, moi, dans les années 1950, hein, c'est pas possible, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'il a des affaires de crédit qui ne sont pas toutes de long terme. Donc ce taux unique est. Il faudrait les creuser pour voir à quoi ça correspond vraiment.
Voilà, donc ça c'est ma question, parce que moi c'est des taux vraiment à la tête du client, hein, selon les durées, etc. Donc c'est vrai que je suis assez stupéfaite dans un truc complètement non formalisé d'un taux comme ça, très fixe. Et puis de l'autre côté, après il y a cette institution. Et là, alors nous. D'où
Denis Vin de l'Ancien Régime. C'est toujours les mêmes taux, c'est toujours 18e. C'est pour ça que nous, ça ne nous a pas.
Le combien on trouvait souvent au fond de cette pratique du taux fixe, même dans des milieux extrêmement de financiers comme là, c'est les Italiens, c'est les meilleurs financiers d'Europe, le taux est fixe.
Ça, c'est vraiment une différence fondamentale.
Disons, ouais. Plutôt il y a du temps. Ce qu'il faut dire, Madame Carlitani, c'est qu'il y a ce taux.
C'est comme ça. Ah, bah, quand même, le taux de 20, il est exigeant. Mais d'accord, mais d'abord, il y a une histoire du taux qui fait que avant d'être au 20, ça a été un état d'autres taux. Et puis surtout, si on regarde la réalité des pratiques, c'est que les gens, en général, empruntent à court terme, que là, les taux sont très fluctuants, que quand il y a des crises de crédit, on ne trouve pas d'argent à quelque taux que ce soit. Et donc finalement, il faut réfléchir chaque fois sur les engagements de crédit concrets pour comprendre ceux-là, dans quel type de taux ils sont. Quand on a des taux de paysans où les gens payent en grains, etc., c'est des taux de 200%. Quand on a du prêt sur gage, c'est des taux absolument énormes aussi. Donc chaque catégorie a son taux. Et le taux à long terme, en plus, dans l'Europe, on n'a pas le droit de prêter à quelque taux que ce soit. Il n'y a que le roi qui s'autorise de mettre ce taux-là. Donc on rentre dans une complexité sociale et économique telle que tabler sur des taux comme ça, très fixes, qui ne bougent pas, à mon sens, ça masque toute la complexité des affaires qu'il y a derrière. Et des engagements court terme, comment. Une des choses aussi, et ça dépend des sources qu'on regarde, c'est pour ça que une des choses, c'est qu'il y a une histoire du crédit. Et ça, on le voit bien. Je trouve que ce qu'on a fait tous les deux est très proche. Enfin, je me retrouve tout à fait, je trouve votre dossier formidable. Mais on voit bien que les gens, il y a aussi un continuum. Les gens commencent par prêter oralement. Après, et là, ça dépend aussi des statuts, ils vont ou aller chez le notaire ou pas y aller. Et puis ensuite, ça dépend s'ils peuvent payer. Il y a toutes des histoires et chaque fois, ça se solde par... C'est-à-dire que le notariat donne quelque chose de statique. Or, ces crédits sont pris dans des dynamiques. Et la même chose, votre taux qui ne bouge pas, c'est une vision statique. Or, ce qui se passe, c'est de la dynamique sans arrêt.
Donc, on peut... La dynamique sans arrêt, mais pas sur le taux.
Sur le taux officiel, mais dans les pratiques.
Le simple, c'est qu'on a un corpus, moi je le sens très bien, c'est-à-dire qu'on a un corpus qui est relativement homogène, là, c'est des actes notariés, le notaire, il ne peut pas mettre.
Mais non,
si on va chez le notaire, ça veut dire qu'on pratique le taux légal. Hein, ceci dit, il y a d'autres types de contrats, je n'ai pas mis là parce que. Pour différentes raisons, mais par exemple, un peu plus tard, en Toscane surtout, on trouve une forme de crédit très répandue, c'est la vente de récolte sur pied. C'est juste les mêmes acteurs, le même mécanisme, sauf que là, on atteint les taux bonites. Une vente de récolte sur pied, c'est toujours c'est 40, 50, 100%, sinon plus. Hein. Et simplement, c'est une autre forme. Alors là, le crédit, évidemment, de taux n'apparaît pas, parce que la vente, la récolte est vendue à un prix fixé d'avance, mais c'est ce taux-là.
D'autre et puis dans les ventes, les gens achètent une terre à prix X, mais qui va être bien supérieur au prix réel de la terre, et dedans, on va fourrer les intérêts en pagaille. Il y a aussi tout des tas de mécanismes comme ça.
C'est-à-dire que ce qu'il faut, un autre élément, c'est que il y a ce taux qui est légal, parce qu'on considère qu'il correspond à peu près au taux d'une autre activité commerciale. C'est-à-dire que si on plaçait l'argent dans une boutique, donc on gagnerait 10 à 15%, et donc c'est le taux légal commercial. Et puis il y a les autres taux qui sont considérés comme usuraires. Donc on ne peut pas les parler, mais qui existent, en particulier qui sont condamnés. Et l'histoire de ces actes, c'est que là, on est dans une période de transparence presque complète. Enfin, on parle du crédit, vous voyez qu'on dit le taux, on paye des intérêts, il y a juste des petites formes, mais simplement ça va disparaître. Et à la fin du XIIIe siècle, on ne voit plus l'intérêt dans les actes. Il n'y a plus jamais, on prend l'argent, c'est une époque merveilleuse. Là, tout le crédit est gratuit. Hein, parce qu'entre-temps, il y a arrivé cette chose qu'on n'a pas vraiment réussi dans notre programme à voir comment elle se passait, c'est-à-dire que les interdictions ecclésiastiques sur sur mesure sont, ont été appliquées. Et donc les animateurs ne peuvent plus indiquer l'intérêt et n'en parlent plus de. C'est pour ça que c'est, je crois que la documentation de cette époque est particulièrement, particulièrement riche. De
cette... Moi, je voudrais revenir sur la fondation de la bibliothèque de Jacquet. D'après les petites conversations que j'ai eues avec François Roussel, il n'a peut-être pas assez insisté dans sa présentation qui est brève. Comme il vient de le dire, là, c'est pas fait pour ça. La bibliothèque des Aquais n'a pas été créée pour ça. Mm-hmm. Elle a été créée, alors si j'ai bien compris, pour un contrôle des acquisitions foncières. Mm-hmm.
C'est ce que il n'y a pas une grosse administration directe de la province. Et donc la plupart des choses, c'est fait par affermage de tâches publiques où on contraint les gens à accepter un service public obligatoire. Et tout ça, je les ai fréquents dans tout le monde.